Dostoïevski, La Logeuse, première partie, chapitre 1. Ordinov se décidait enfin à changer de logement. Sa logeuse, une femme âgée très pauvre, veuve d'un fonctionnaire, avait dû, pour des raisons imprévues, quitter Saint-Pétersbourg et aller vivre chez des parents dans un petit village, sans même attendre le premier du mois, date à laquelle expirait sa location. Le jeune homme, qui restait jusqu'au bout du terme, payé d'avance, songeait avec regret à ce logis qu'il allait devoir abandonner. Il en était triste. Cependant, il était pauvre et son logement était cher. Le lendemain, après le départ de sa logeuse, il se coiffa de son bonnet et sortit regarder dans les petites ruelles de Pétersbourg les écriteaux collés aux portes cochères des maisons, s'arrêtant de préférence devant les immeubles les plus sombres et les plus populeux, où il avait plus de chances de trouver la chambre qui lui convenait chez de pauvres locataires. Il y avait déjà un beau moment qu'il était absorbé dans sa recherche, quand peu à peu il se sentit envahir par des sensations neuves, presque inconnues, d'abord distraitement, négligemment, ensuite avec une vive attention. Il regarda autour de lui, la foule et la vie de la rue, le bruit, le mouvement, la nouveauté des choses, toute cette activité, ce train-train de la vie courante qui ennuie depuis longtemps le pétersbourgeois affairé, surmené, qui toute sa vie cherche en vain et avec une dépense énorme d'énergie la possibilité de trouver le calme, le repos, dans un nid chaud acquis par son travail, son service ou d'autres moyens, toute cette prose terre-à-terre éveillait en Ordinov au contraire une sensation douce, joyeuse, presque enthousiaste. Ses joues pâles se couvrirent d'un léger incarnat, ses yeux brillèrent d'une nouvelle espérance et avec avidité à large bouffée, il aspira l'air froid et frais. Il se sentait extraordinairement léger. Il avait toujours mené une vie calme, solitaire. 3 ans auparavant, il avait obtenu un grade scientifique et, devenu libre autant que possible, il était allé chez un vieillard que, jusqu'alors, il ne connaissait que de nom. Là, on l'avait fait attendre longtemps, jusqu'à ce que le valet de pied en livrée eût daigné l'annoncer pour la deuxième fois. Enfin, il avait été introduit dans un salon haut, sombre, désert, inhospitalier, comme il y en a encore dans certaines vieilles demeures seigneuriales où la vie semblait s'être figée. Dans le salon, il avait aperçu un vieillard à cheveux blancs, chamarré de décoration, l'ami et le collègue de feu son père et son tuteur. Le vieillard lui avait remis un peu d'argent. La somme était minime, c'était ce qui restait de l'héritage de ses aïeux, vendu par autorité de justice pour dette. Ordinov avait pris cet argent d'un air indifférent, puis avait dit adieu pour toujours à son tuteur et était sorti dans la rue. Cet après-midi d'automne était froide et sombre. Le jeune homme était pensif et une tristesse immense déchirait son cœur. Une flamme brillait dans ses yeux, il avait des frissons de fièvre. Il calculait chemin faisant qu'avec l'argent qu'il venait de recevoir, il pourrait vivre 2 ans ou 3, 4 ans peut-être, s'il ne mangeait pas toujours à sa faim. La nuit vint, la pluie commençait à tomber, il loua le premier réduit qu'il trouva, et 1 heure après, il était installé. Là, il s'enferma comme dans un cloître, renonça complètement au monde, et 2 ans plus tard, il était devenu tout à fait sauvage. Il le devint sans le remarquer. Il ne pensait même pas qu'il y eût une autre vie bruyante, agitée, changeante, attirante, et toujours, tôt ou tard, inévitable. À vrai dire, malgré lui, il avait entendu parler de cette vie, mais il l'ignorait et ne cherchait pas à la connaître. Son enfance avait été solitaire. Maintenant, il était absorbé tout entier par la passion la plus profonde, la plus insatiable, par une de ces passions qui ne laissent pas aux êtres, comme Ordinov, la moindre possibilité pour une activité presque vitale. Cette passion, c'était la science. En attendant, elle rongeait sa jeunesse d'un poison lent, délicieux. Elle troublait même le repos de ses nuits et le privait de la nourriture saine et de l'air frais qui jamais ne pénétrait dans son réduit. Mais Ordinov, dans l'engouement de sa passion, ne voulait même pas le remarquer. Il était jeune et pour le moment, il ne demandait rien de plus. Sa passion le laissait enfant pour tout ce qui était de la vie extérieure et le rendait incapable à jamais d'écarter les braves gens pour se faire une petite place parmi eux, le cas échéant. La science, entre certaines mains, est un capital. La passion d'Ordinov était une âme tournée contre lui-même. C'était moins la volonté nette et logique d'apprendre, de savoir, qu'il avait dirigé vers les études auxquelles il s'était adonné jusqu'à ce jour, qu'une sorte d'attirance inconsciente. Encore enfant, on le considérait comme un original, car il ne ressemblait en rien à ses camarades. Il n'avait pas connu ses parents, à cause de son caractère bizarre, de sa sauvagerie. Il avait souffert beaucoup de la part de ses jeunes condisciples, et cela l'avait rendu encore plus sombre, si bien que, peu à peu, il s'était écarté complètement des hommes pour se renfermer en lui-même. Dans ses études solitaires, jamais, pas plus que maintenant, il n'y avait eu d'ordre, de système. C'était comme le premier élan, la première ardeur, la première fièvre de l'artiste. Il s'était créé un système à son usage. Il y avait réfléchi pendant des années, et en son âme se formait peu à peu l'image encore vague, amorphe, mais divinement belle, de l'idée incarnée dans une forme nouvelle, lumineuse. Et cette forme, en voulant se dégager de son âme, la faisait souffrir. Il en ressentait timidement l'originalité, la vérité, la puissance. Sa créature voulait déjà vivre par elle-même, prendre une forme, s'y fortifier. Mais le terme de la gestation était encore loin, peut-être très loin. Peut-être était-il inaccessible. Maintenant, Ordinov marchait dans les rues comme un étranger, comme un ermite sorti soudain de son désert de silence, dans la ville bruyante et mouvante. Tout lui paraissait neuf et curieux, mais il était à tel point étranger à ce monde qui bouillonnait et s'agitait autour de lui, qu'il n'avait même pas l'idée de s'étonner de ses sensations bizarres. Il paraissait ne pas s'apercevoir de sa sauvagerie. Au contraire, un sentiment joyeux, une sorte d'ivresse, comme celle de l'affamé à qui, après un long jeûne, on donnerait à boire et à manger, naissait en lui. Il peut sembler étrange qu'un événement d'aussi mince importance qu'un changement de logis ait suffi à étourdir et à émouvoir un habitant de Pétersbourg, fût-ce Ordinov. Mais il faut dire que c'était peut-être la première fois qu'il sortait pour affaires. Il lui était de plus en plus agréable d'entrer dans les rues, et il regardait tout en flâneur. Fidèle, même maintenant, à son occupation habituelle, il lisait dans le tableau qui se découvrait merveilleux devant lui, comme entre les lignes d'un livre. Tout le frappait, il ne perdait pas une seule impression, et de son regard pensif, il scrutait les visages des passants, observait attentivement l'aspect de tout ce qui l'entourait, écoutait avec ravissement le langage populaire, comme s'il contrôlait surtout les conclusions nées dans le calme de ses nuits solitaires. Souvent, un détail le frappait, provoquant une idée, et pour la première fois, il ressentit du dépit de s'être enseveli vivant dans sa cellule. Ici, tout allait beaucoup plus vite. Son pouls battait plus fort et plus rapidement. L'esprit opprimé par l'isolement, stimulé seulement par l'effort exalté, travaillait maintenant avec rapidité, assurance et hardiesse. En outre, presque inconsciemment, il désirait s'introduire d'une façon quelconque dans cette vie étrangère pour lui, car jusqu'à ce jour, il ne la connaissait, ou plutôt ne la pressentait que par l'instinct de l'artiste. Son cœur battait malgré lui de l'angoisse de l'amour et de la sympathie. Il examinait avec plus d'attention les gens qui passaient devant lui, mais tous étaient lointains, soucieux et pensifs. Peu à peu, le sentiment d'Ordinov se dissipait. Déjà, la réalité l'oppressait et lui imposait une sorte de crainte et de respect. Cet assaut d'impressions, jusqu'alors inconnues, commençait à le fatiguer, comme un malade qui se lève joyeusement de son lit pour la première fois et retombe frappé par la lumière et le tourbillon éclatant de la vie. De même, Ordinov était étourdi et fatigué par le bruit et la vivacité des couleurs de la foule qui passait devant lui. La tristesse et l'angoisse le gagnaient. Il commençait à avoir peur pour toute sa vie, pour son activité, même pour l'avenir. Une pensée nouvelle tuait son calme. Tout à coup, il venait de se dire qu'il était seul, que personne ne l'aimait et que lui-même n'avait jamais eu l'occasion d'aimer quelqu'un. Quelques passants auxquels par hasard il avait adressé la parole en commençant sa promenade l'avaient regardé d'une façon étrange, blessante. Il voyait qu'on le prenait pour un fou, ou du moins pour un original des plus singuliers, ce qui d'ailleurs était tout à fait juste. Alors il se souvint que tout le monde était gêné en sa présence toujours. Dès son enfance, tous l'évitaient à cause de son caractère renfermé, obstiné, et la compassion qui parfois se manifestait en lui était pénible aux autres ou incomprise d'eux. Et de tout cela, il avait souffert étant enfant, alors qu'il ressemblait à aucun enfant de son âge. Maintenant, cela lui revenait, et il constatait que, de tout temps, tous l'avaient abandonné et fui. Sans se rendre compte comment il y était venu, Ordinov se trouva dans un quartier très éloigné du centre de Pétersbourg. Après un dîner très sommaire dans un petit débit, il recommença à errer par les rues, traversa des places et arriva ainsi à une sorte de chemin bordé de palissades jaunes et grises. Au lieu de riches constructions, c'était maintenant de misérables masures et des bâtiments d'usines immenses, monstrueux, rouges, noircis avec de hautes cheminées. Tout alentour était désert et vide, tout avait l'air sombre et hostile. Cela semblait au moins Holdinov. Le soir venait, au bout d'une longue ruelle, il arriva à la petite place de l'église paroissiale. Il y entra distraitement. La séance venait de finir, l'église était presque vide. Deux vieilles femmes étaient agenouillées à l'entrée. Un sacristain, petit vieillard à cheveux blancs, éteignait les cierges. Les rayons du soleil couchant traversaient en un large flot le vitrail étroit de la coupole, éclairait d'une lumière fulgurante l'un des autels. Mais leur éclat diminuait peu à peu, et plus l'obscurité s'épaississait à l'intérieur du temple, plus merveilleusement brillaient par endroits les icônes dotées de rééclairées par la lumière vacillante des veilleuses et des cierges. Saisi d'une profonde angoisse et d'un étrange sentiment d'oppression, Ordinov s'appuya contre la muraille dans le coin le plus sombre de l'église et s'abandonna pour un instant. Il se ressaisit quand les pas sourds mesurés de deux visiteurs retentirent sous les voûtes. Il leva les yeux et une curiosité inexprimable s'empara de lui à la vue des nouveaux venus. C'était un vieillard et une jeune femme. Le vieillard était de haute taille, droit et bien conservé, mais très maigre et d'une pâleur maladive. À son extérieur, on pouvait le prendre pour un marchand d'une province lointaine. Il portait, déboutonné, un long cafetan noir, doublé de fourrure, évidemment un habit de fête, en dessous duquel paraissait un autre vêtement très long, soigneusement boutonné du haut en bas. Le cou était négligemment entouré d'un foulard rouge vif. Dans sa main, il tenait un bonnet de fourrure. Une longue et fine barbe grise tombait sur sa poitrine, et sous des sourcils épais brillait un regard fiévreux, hautain et profond. La femme, qui pouvait avoir une vingtaine d'années, était merveilleusement belle. Elle avait une belle pelisse courte, bleue, doublée de fourrure rare. Sa tête était couverte d'un foulard de soie blanche attaché sous le menton. Elle marchait les yeux baissés. Une gravité pensive, émanant de toute sa personne, se marquait nettement, tristement, sur le contour délicieux de son visage délicat, aux lignes fines, douces et juvéniles. Il y avait dans ce couple inattendu quelque chose d'étrange. Le vieillard s'arrêta au milieu de l'église, s'inclina de tous côtés, bien que l'église fût complètement déserte. Sa compagne fit de même. Ensuite, il la prit par le bras et la mena devant une grande image de la Vierge, sous le vocable de laquelle était l'église qui brillait près de l'autel dans l'éclat aveuglant des feux que reflétait son cadre d'or serti de pierres précieuses. Le sacristain, qui restait seul dans l'église, salua le vieillard avec respect. Celui-ci lui répondit d'un signe de tête. La femme tomba à genoux devant l'icône. Le vieillard prit l'extrémité du voile attaché à l'icône et lui en couvrit la tête. Un sanglot sourd éclata dans l'église. Ordinov était frappé de la solennité de toute cette scène et impatient d'en voir la fin. 2 minutes après, la femme releva la tête et la lumière vive du lampadaire éclaira de nouveau son charmant visage. Ordinov tressaillit et fit un pas en avant. Déjà, elle tendait sa main au vieillard et tous deux sortirent lentement de l'église. Des larmes brillaient dans les yeux de la jeune femme, des yeux bleus profonds, avec de longs cils qui se détachaient sur la blancheur de son visage et ombraient ses joues pâles. Un sourire éclairait ses lèvres, mais le visage portait la trace d'une terreur mystérieuse et enfantine. Elle se serrait timidement contre le vieillard et on voyait qu'elle tremblait toute d'émotion. Frappée, fouettée par un sentiment inconnu, joyeux et tenace, Ordinov les suivit rapidement et, sur le parvis de l'église, leur coupa le chemin. Le vieillard le regarda d'un air hostile et sévère. Elle aussi jeta un regard sur lui, mais sans curiosité, distraitement, comme si une autre pensée lointaine l'absorbait. Ordinov les suivit sans même s'en rendre compte. Faisait déjà nuit. Le vieillard et la jeune femme entrèrent dans une grande rue large, sale, pleine de petites boutiques diverses, de dépôts de farine, d'auberges, et qui menaient tout droit hors de la ville. Dans cette rue, ils prirent une longue ruelle étroite, fermée de chaque côté par des palissades, et que terminait l'énorme mur noirci d'une grande maison de 4 étages, dont l'autre issue donnait sur une grande rue populeuse. Ils étaient déjà près de la maison quand le vieillard soudain se retourna et jeta un regard impatient sur Ordinov. Le jeune homme s'arrêta net, surpris lui-même de sa conduite. Le vieillard se retourna pour la seconde fois comme pour s'assurer si la menace avait produit son effet. Ensuite, ils entrèrent tous deux, lui et la jeune femme, dans la cour de la maison. Ordinov revint sur ses pas pour rentrer chez lui. Il était de fort mauvaise humeur. Il s'en voulait d'avoir perdu ainsi toute une journée, de s'être fatigué sans raison et surtout d'avoir commis la sottise de prendre pour une sorte d'aventure un incident plus que banal. Quelque dépit qu'il ait eu le matin de sa sauvagerie, toutefois son instinct le portait à fuir tout ce qui pouvait le distraire, le détourner, l'arracher de son monde intérieur artistique. Maintenant, avec une certaine tristesse, un certain regret, il pensait à son coin tranquille. Puis il ressentit de l'angoisse ainsi que le souci d'une situation indécise, des démarches à faire, et en même temps, il était irrité qu'une pareille misère pût l'occuper. Enfin, fatigué, incapable de lier 2 idées, il arriva très tard déjà à son logis. Avec étonnement, il remarqua qu'il avait failli passer devant sa maison sans la reconnaître. Machinalement, en hochant la tête pour sa distraction qu'il attribuait à la fatigue, il monta l'escalier jusqu'à sa chambre sous les toits et il alluma une bougie. 1 minute après, l'image de la femme sanglotant surgit là, devant lui. Cette impression était si obsédante, si forte. Son cœur lui retraçait avec un tel amour les traits doux et calmes de son visage, empreint d'un attendrissement mystérieux et d'effroi, mouillé de larmes d'enthousiasme ou de repentirs enfantins, que ses yeux se voilèrent et il lui sembla que dans toutes ses veines coulait du feu. Mais la vision s'effaça vite. Après la surexcitation, la réflexion vint ensuite, le dépit, puis une sorte de colère, après quoi, épuisé de fatigue, sans se dévêtir, il s'enveloppa dans ses couvertures et se jeta sur son lit. Ordinaf s'éveilla assez tard dans la matinée. Il se sentait irrité, déprimé. Il s'habilla à la hâte en s'efforçant de penser à ses soucis quotidiens, et une fois dehors, dirigea ses pas du côté opposé au chemin suivi la veille. Enfin, il trouva une chambre, quelque part dans le logement d'un pauvre Allemand nommé Spies, qui vivait là avec sa fille, Tintchen. Spies avait, après avoir reçu les arrhes, là, aussitôt décroché l'écriteau suspendu à la porte cochère. Il avait loué Ordinov, surtout à cause de l'amour de celui-ci pour la science, car lui-même projetait de se mettre à l'étude très sérieusement. Ordinov prévint qu'il s'installerait le soir même. Il reprit le chemin de sa demeure, mais, réflexion faite, soudain se dirigea du côté opposé. Le courage lui revenait, il sourit même en pensant à sa curiosité. Dans son impatience, le chemin lui semblait extrêmement long. Enfin, il arriva à l'église où il était entré la veille au soir. On chantait la messe. Il choisit un endroit d'où il pouvait voir presque tous les fidèles. Mais ceux qu'il cherchait n'étaient pas là. Après une longue attente, il sortit tout rougissant. S'entêtant à réprimer un sentiment qui l'envahissait malgré lui, il essayait de toutes ses forces de changer le cours de ses pensées. Ramené aux choses courantes de la vie, il s'avisa qu'il était temps de dîner, et croyant en effet ressentir la faim, il entra dans le même débit où il avait mangé la veille. Il ne se souvenait pas, par la suite, comment il l'avait quitté. Longtemps et sans idée nette, il erra dans les rues et les ruelles populeuses ou désertes, et enfin il arriva à un endroit écarté qui n'était déjà plus la ville et où s'étendait un champ jauni. Ce silence profond lui communiqua une impression qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps, et il se ressaisit. C'était une de ces journées sèches et froides, comme il y en a parfois à Pétersbourg en octobre. Non loin de là, il y avait une izba, et tout près, deux meules de foin. Un petit cheval, aux côtes saillantes, la tête baissée, la langue pendante, était là, sans harnais, à côté d'un petit char à deux roues. Il semblait songer à quelque chose. Un chien, en grognant, rongeait un os près d'une roue brisée. Un enfant de 3 ans, vêtu d'une simple chemise, tout en grattant sa tête blonde, regardait avec étonnement le citadin qui était là. Derrière l'isba commençaient les champs et les potagers. À l'horizon, la ligne noire de la forêt bordait le bleu du ciel. Du côté opposé s'amoncelaient des nuages neigeux qui semblaient chasser devant eux une bande d'oiseaux migrateurs, fuyant sans cri sur le ciel. Tout était silencieux et d'une tristesse solennelle, comme en une sorte d'attente. Ordinov voulait aller plus loin, mais le désert commençait à l'oppresser. Il retourna dans la ville, où s'entendit tout à coup le bruit sourd des cloches appelant les fidèles au service vespéral. Il pressa le pas et se retrouva bientôt devant l'église qu'il connaissait si bien depuis la veille. La femme inconnue était déjà là. Elle était à genoux, à l'entrée même, parmi la foule des fidèles. Ordinov se fraya un chemin à travers les mendiants, les vieilles femmes en guenilles, les malades et les estropiés qui attendaient l'aumône à la porte de l'église, et il vint se mettre à genoux à côté de son inconnue. Leurs vêtements se touchaient. Il entendait le souffle haletant qui sortait de ses lèvres, qui chuchotait une prière ardente. Les traits de son visage étaient, comme hier, bouleversés par un sentiment de pitié infinie, et de nouveau, ses larmes coulaient et séchaient sur ses joues brûlantes, comme pour les laver de quelque crime terrible. L'endroit où il se trouvait était tout à fait sombre. Par instants seulement, le vent, qui rentrait par la vitre ouverte de la fenêtre étroite, agitait la flamme qui éclairait alors d'une lueur vacillante le visage de la jeune femme, dont chaque trait se gravait dans la mémoire d'Ordinov et obscurcissait sa vue et lui martelait le cœur d'une douleur sourde, insupportable. Mais dans cette souffrance, il y avait une jouissance indicible. Il ne put y tenir. Toute sa poitrine tremblait, et en sanglotant, il inclina son front brûlant sur les dalles froides de l'église. Il n'entendait, ne sentait rien, sauf la douleur de son cœur qui se mourait dans une souffrance délicieuse. Cette sensibilité extrême, ainsi que cette pureté et cette faiblesse du sentiment, étaient-elles développées par la solitude? Cet élan du cœur se préparait-il dans le silence angoissant, étouffant, infini des longues nuits sans sommeil, traversées par les aspirations inconscientes et les tressaillements de l'esprit impatient, ou tout simplement le moment était-il venu? Était-ce la minute solennelle, fatale, inéluctable? Il arrive que par une journée chaude, étouffante, tout à coup, le ciel entier devient noir et l'orage éclate en pluie et en feu sur la terre assoiffée. Et l'orage attache des perles de plus aux branches des arbres, fouette l'herbe des champs, écrase sur le sol les tendres fleurs, pour qu'après, au premier rayon du soleil, tout revivant de nouveau, acclame le ciel et lui renvoie son ensemble voluptueux et l'hymne de sa reconnaissance. Mais Ordinov ne pouvait maintenant se rendre compte de ce qui se passait en lui. À peine avait-il conscience d'être. Le service prit fin sans même qu'il s'en aperçût. Et il se retrouva, suivant son inconnu à travers la foule qui s'amassait à la sortie. Par moments, il rencontrait son regard étonné et clair. Arrêtée à chaque instant par la foule, elle se retourna vers lui plusieurs fois. Son étonnement semblait grandir de plus en plus. Puis, tout à coup, son visage s'empourpra. À ce moment, soudain, dans la foule, parut le vieillard de la veille. Il la prit par le bras. Ordinov rencontra de nouveau son regard mauvais et moqueur, et une colère étrange, subite, le mordit au cœur. Les ayant perdus de vue dans l'obscurité d'un effort violent, il s'élança en avant et sortit de l'église. Mais l'air frais du soir ne pouvait le rafraîchir. Sa respiration s'arrêtait, se faisant de plus en plus rare. Son cœur se mit à battre lentement et fortement, comme s'il voulait lui rompre la poitrine. Enfin, il s'aperçut qu'il avait complètement perdu ses inconnus. Il ne les apercevait plus ni dans la rue, ni dans la ruelle. Mais dans la tête d'Ordinov venait de naître l'idée d'un plan hardi, bizarre, un de ces projets fous qui, en revanche, dans des cas pareils, aboutissent presque toujours. Le lendemain, à 8 heures du matin, il se rendit à la maison du côté de la ruelle et pénétra dans une petite cour étroite, sale et puante, qui était quelque chose comme la fosse à ordures de la maison. Le portier, occupé à quelques besognes dans la cour, s'arrêta, le menton appuyé sur le manche de sa pelle, et regarda Ordinov de la tête aux pieds, puis il lui demanda ce qu'il désirait. Le portier était un jeune garçon de 25 ans, d'origine tatare, au visage vieilli, ridé, de petite taille. « Je cherche un logement, » répondit Ordinov nerveusement. « Lequel ?» demanda le portier avec un sourire. Il regardait Ordinov comme s'il connaissait toute son histoire. « Je voudrais louer une chambre chez des locataires, » dit Ordinov. « Dans cette cour, il n'y en a pas, » dit le portier d'un air mystérieux. Et ici ?»« Ici non plus. » Le portier reprit sa pelle. « Peut-être m'en céderait-on une tout de même, » insista Ordinov en glissant 10 copecks au portier. Le tatar regarda Ordinov, empocha la pièce, reprit de nouveau sa pelle et, après un court silence, répéta qu'il n'y avait rien à louer. Mais déjà le jeune homme ne l'écoutait plus. Il montait sur les planches pourries jetées à travers une large flaque d'eau, conduisant à la seule entrée qu'avait dans cette cour le pavillon noir, sale, comme noyé dans cette eau bourbeuse. Au rez-de-chaussée du pavillon habitait un pauvre fabricant de cercueils. Ordinov passa devant son atelier et, par un escalier glissant en colimaçon, il monta à l'étage supérieur. En tâtonnant dans l'obscurité, il trouva une grosse porte mal équarrie, tourna le loquet et l'ouvrit. Il ne s'était pas trompé. Devant lui se tenait le vieillard qu'il connaissait et qui, fixement, avec un étonnement extrême, le regarda. « Que veux-tu » dit-il brièvement, presque chuchotant. « Est-ce qu'il y a un logement ?» demanda Ordinov, oubliant presque tout ce qu'il voulait dire. Derrière l'épaule du vieillard, il aperçut son inconnu. Le vieux, sans répondre, se mit à refermer la porte en poussant avec elle Ordinov. « Mais il y a une chambre ?» fit tout à coup la voix douce de la jeune femme. Le vieillard lâcha la porte. « Oh, j'ai besoin d'un coin, n'importe quoi !» dit Ordinov en se précipitant dans ce logement et s'adressant à la belle. Mais il s'arrêta étonné, comme pétrifié, dès qu'il eut jeté un regard sur ses futurs logeurs. Devant ses yeux se déroulait une scène muette extraordinaire. Le vieux était pâle comme un mort, on eût dit qu'il se trouvait mal. Il regardait la femme d'un regard de plomb, immobile et pénétrant. Elle, d'abord, pâlit aussi, mais ensuite tout son sang afflua à son visage et ses yeux brillèrent étrangement. Elle conduisit Ordinov dans l'autre chambre. Du palier, on entrait directement dans une antichambre étroite, sombre. En face était la porte menant évidemment à la chambre des maîtres. À droite, c'était la chambre à louer. Elle était étroite et basse, avec deux petites fenêtres également très basses. Elle était tout encombrée d'objets divers, comme il y en a dans chaque logement. C'était pauvre, exigu, mais aussi propre que possible. Le mobilier consistait en une simple table de bois blanc, deux chaises très ordinaires et deux bancs étroits placés de chaque côté de la pièce le long du mur. Une grande icône ancienne à couronne dorée était appendue dans l'angle et devant elle brûlait une veilleuse. Un énorme et grossier poêle russe donnait par moitié dans cette chambre et dans l'antichambre. Évidemment, trois personnes ne pouvaient vivre dans un pareil logement. Ils commencèrent à marchander, mais sans suite dans les idées, se comprenant à peine les uns les autres. À deux pas de la femme, Ordinov entendait battre son cœur. Il voyait qu'elle tremblait toute d'émotion et même de peur. Enfin, on tomba d'accord. Le jeune homme déclara qu'il s'installerait tout de suite et regarda le patron. Le vieillard était debout devant la porte, toujours pâle, mais un sourire doux, même pensif, errait sur ses lèvres. Ayant rencontré le regard d'Ordinov, il fronça de nouveau les sourcils. « As-tu un passeport ? » demanda-t-il tout d'un coup d'une voix haute et brève, en ouvrant à Ordinov la porte de l'antichambre. « Oui, » répondit celui-ci un peu étonné. « Qui es-tu ? » « Vassili Ordinov, gentilhomme, je ne le sers nulle part, je m'occupe de mes affaires, » dit-il sur le même ton que le vieux. « Moi aussi, » fit le vieillard. « Mon nom est Mourine, bourgeois. Cela te suffit ?»« Bah. » Une heure plus tard, Ordinov était dans son nouveau logement, non moins étonné du changement que l'Allemand, qui déjà commençait à craindre avec sa timide chaîne que le nouveau locataire ne leur jouât un tour. Ordinov, lui, ne comprenait pas comment tout cela était arrivé et ne voulait pas le comprendre.